Chers amis, bonjour, bienvenue. Vous écoutez la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé Anneville et nous sommes le 13 août. Chaque jour, croyez-moi, je suis émerveillé par le fait que nous puissions faire ceci. Lire la Bible ensemble, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, c'est extraordinaire. Et c'est Sabel qui nous lira aujourd'hui la Bible en français courant.
Néhémie, chapitre 5. Au chapitre 7, verset 72. Depuis le jour où j'avais été désigné comme gouverneur des Juifs dans la province de Juda, soit pendant 12 ans, de la 20e à la 32e année du règne d'Artaxerxès, ni moi ni mes proches n'avons usé de notre droit de prélever l'impôt destiné au gouverneur. Mes prédécesseurs pressuraient le peuple, exigeant nourriture et vin, en plus de 40 pièces d'argent. Même les collaborateurs des gouverneurs opprimaient le peuple. Mais moi, par crainte de Dieu, je n'ai jamais agi ainsi. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la reconstruction de la muraille. Je n'ai pas profité de ma situation pour acheter des terrains à bon compte. Et mes collaborateurs, qui participaient aussi aux travaux sur la muraille, ne l'ont pas fait non plus. Pourtant, je recevais à ma table 150 magistrats juifs, à côté des hôtes qui nous venaient des nations voisines. Chaque jour, on préparait à mes frais un bœuf, 6 moutons de choix et de volaille. Et, tous les 10 jours, on me livrait de grandes quantités de vin. Malgré cela, je n'ai pas réclamé ce qui était normalement dû au gouverneur, car les travaux constituaient déjà une lourde charge pour le peuple. Ô mon Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour ce peuple et accorde-moi ta faveur. Sanébalat, Tobia, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais reconstruit la muraille de la ville et qu'il n'y avait plus de brèche. À ce moment-là, je n'avais pourtant pas encore mis en place les battants des portes. Alors, Sanébalat et Geshem envoyèrent un messager m'inviter à une entrevue avec eux, à Képhirim, dans la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal, mais je leur fis répondre ceci. « J'ai encore beaucoup de travail à accomplir, et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Si je partais d'ici pour vous rencontrer, le travail cesserait. » À 4 reprises, ils m'envoyèrent la même invitation, et chaque fois, je leur fis la même réponse. La 5e fois, Sanébalat m'envoya un de ses collaborateurs, porteur d'une lettre ouverte qui disait « Le bruit court parmi les non-juifs, comme Geshem me l'a apporté, que toi et tes compatriotes vous songez à vous révolter. C'est la raison pour laquelle tu rebâtis la muraille. Tu désires être leur roi, paraît-il. On dit même que tu as déjà désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Le roi de Perse ne va pas tarder à apprendre tout cela. Alors, viens t'entretenir avec moi. » Je lui fis répondre. « Il n'y a rien d'exact dans ce que tu racontes. Ce n'est que pure invention de ta part. » En effet, ils essayaient de tous nous effrayer. Ils espéraient que, découragés, nous cesserions le travail. Ô Seigneur, fortifie-moi dans ma tâche. Un jour, j'allais trouver Shemaïa, fils de Delaïa et petit-fils de Métabéel, car il n'avait pas pu venir chez moi. Il me dit, « Rencontrons-nous dans le temple de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons bien les portes, car tes adversaires vont venir de nuit pour te tuer. » « Je ne suis pas homme à prendre la fuite, » répondis-je. « Et d'ailleurs, un homme tel que moi pourrait-il pénétrer dans le sanctuaire et rester en vie ? Non, je ne m'y rendrai pas. » J'avais bien compris qu'il ne transmettait pas un message de Dieu, mais que Tobia et Sanébalat l'avaient payé pour qu'il me parle ainsi. « Pourquoi donc ? Pour que j'aie peur, que je suive son conseil et que je commette un péché. Alors, ils auraient pu compromettre ma réputation et me couvrir de honte. » Ô mon Dieu, souviens-toi de ce qu'ont fait Tobia et Sanébalat, comme aussi la prophétesse Noadia et les autres prophètes qui ont cherché à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Eloul, après 52 jours de travail. Lorsque dans les nations des alentours, nos ennemis l'apprirent, ils éprouvèrent de la crainte et se sentirent profondément humiliés. Ils durent reconnaître que cet ouvrage avait été réalisé avec l'aide de Dieu. Durant toute cette période, il y eut un important échange de correspondances entre les notables de Juda et Tobia. En effet, bon nombre de Juifs conspiraient avec lui, car il était le gendre d'un Juif, Shekania, fils d'Ara, et son propre fils, Yohanan, avait épousé la fille de Meshulam, fils de Berekia. On faisait son éloge devant moi, et on lui rapportait mes propos. Tobia lui-même envoyait des lettres pour m'effrayer. Lorsque la muraille fut achevée et que les battants des portes eurent été remis en place, les portiers, les chanteurs et les lévites furent rétablis dans leurs fonctions. Je confiai l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani, ainsi qu'à Hanania, commandant militaire de la forteresse, homme de confiance, bien plus fidèle à Dieu que beaucoup d'autres. Je leur dis, « On n'ouvrira pas les portes de la ville avant que le soleil soit haut dans le ciel. Et le soir, on les fermera et on les verrouillera avant que les portiers quittent leur travail. On instituera un tour de garde pour les habitants de Jérusalem, les uns occupant un poste et les autres surveillant les abords de leur maison. Bien que la ville de Jérusalem s'étendît sur une vaste surface, la population était peu nombreuse. Certaines maisons n'avaient pas encore été rebâties. Inspiré par mon Dieu, je rassemblai les notables, les magistrats et le reste du peuple pour en faire le recensement. Je consultai le livre contenant la liste de ceux qui, tout au début, étaient revenus d'exil et j'y trouvai les indications suivantes. Parmi les familles que le roi de Babylone, Nabucodonosor, avait emmenées en exil, nombreux furent ceux qui regagnèrent Jérusalem et le pays de Juda. Chacun retourna dans sa propre ville. Ils revinrent sous la conduite de Zorobabel, Yeshua, Néhémia, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mordecai, Bileshem, Mispéret, Bigvai, Nehum et Bana. On voit ici la liste avec le nombre des Israélites formant chaque groupe. 2172 hommes du clan de Paroche, 372 hommes du clan de Shephatia, 652 hommes du clan d'Ara, 2818 hommes du clan de Panath Moab, descendant de Yeshua et de Yoam, 1254 hommes du clan d'Elam, 845 hommes du clan de Zatou, 760 hommes du clan de Zakai, 648 hommes du clan de Binoui, 628 hommes du clan de Bebaï, 2322 hommes du clan d'Asgad, 667 hommes du clan d'Anonikam, 2067 hommes du clan de Bigvai, 655 hommes du clan d'Adin, 98 hommes du clan d'Ater, descendant de Ischia, 328 hommes du clan de Yashum, 324 hommes du clan de Bessai, 112 hommes du clan de Harif, 95 hommes du village de Gabaon, 188 hommes des villages de Bethléem et Netopha, 128 hommes du village d'Anatot, 42 hommes du village de Beth Azmavet, 743 hommes des villages de Kiryat, Yaharim, Kephira et Beeroth, 621 hommes des villages de Rama et Geba, 122 hommes du village de Mikmas, 123 hommes des villages de Bethel et Haï, 52 hommes de l'autre village de Nebo, 1254 hommes du clan d'un autre Elam, 320 hommes du clan de Harim, 345 hommes de la ville de Jéricho, 721 hommes des villages de Lod, Hadid et Ono, 3930 hommes de la ville de Séna. Les groupes des prêtres comprenaient 973 hommes du clan de Yedaya, descendant de Yeshua, 1052 hommes du clan d'Imer, 1247 hommes du clan de Pachéour, 1017 hommes du clan de Harim. Le groupe des Lévites comprenait 74 hommes des clans de Yeshua, Kadmiel, Binouillé, Hodeva. Le groupe des chanteurs du temple comprenait 148 hommes du clan d'Asaph. Le groupe des portiers comprenait 138 hommes des clans de Shalom, Ater, Talmon, Akub, Atatia et Shobai. Le groupe des employés subalternes du temple comprenait les descendants de Sia, Hasoufa, Tabaoth, Kéros, Sia, Padon, Lebana, Agaba, Shalmai, Hanan, Gidel, Gahar, Reaya, Ressa, Nekoda, Gaza, Mouza, Pasea, Bezaï, Meounin, Nefouchessim, Bakbouk, Hakoufa, Harour, Baslit, Mehida, Harsha, Barkos, Sisra, Tema, Nessia, et Hatipha. Le groupe des descendants des serviteurs de Salomon comprenait les descendants de Sotai, Sopheret, Perida, Yala, Darkon, Guidel, Shephatia, Hatil, Pokeret, Hasebaïm et Amon. Ensemble, les groupes des employeurs subalternes du temple et des descendants des serviteurs de Salomon comprenaient 392 hommes. Les hommes qui revinrent d'exil de Tel Mela, Tel Archa, Kéroubadon et Immer ne réussirent pas à fournir les renseignements nécessaires sur les familles de leurs ancêtres pour prouver qu'ils étaient israélites. Ils étaient en tout 642 et descendaient de Delaïa, Tobia et Nekoda. Certains prêtres se trouvèrent dans une situation analogue. C'étaient les descendants de Hobaya, Akos et Barzilaï. Ce dernier était appelé ainsi parce qu'il avait épousé une des filles de Barzilaï, de Galad. Ils avaient cherché sans succès les registres où leurs ancêtres étaient inscrits. On les considéra donc comme impurs et on leur interdit d'exercer un ministère de prêtre. Le gouverneur lui-même leur ordonna de ne pas manger des offrandes strictement réservées à Dieu jusqu'à ce qu'un prêtre puisse prendre une décision au moyen de l'Urim et du Thummim. Le nombre total des Israélites revenus d'exil s'élevait à 42 360 personnes. Ils avaient avec eux 7 337 serviteurs et servantes, 245 chanteurs et chanteuses, ainsi que 435 chameaux et 6 720 ânes. Quelques-uns des chefs de famille firent des dons pour la reconstruction du peuple. Le gouverneur donna 1000 pièces d'or, 50 bols à aspersion, 30 tuniques de prêtre et 250 kilos d'argent au profit du sanctuaire. Quant aux dons de chefs de famille, ils s'élevèrent à 20 000 pièces d'or et 1 100 kilos d'argent. Les autres Israélites donnèrent 20 000 pièces d'or, 1 000 kilos d'argent et 67 tuniques de prêtre. Les prêtres, les lévites, les portiers, les chanteurs, certains laïcs, tels que les employés subalternes du temple et tous les autres Israélites, s'établirent dans leurs villes respectives. Corinthiens 8, versets 1 à 13. Examinons maintenant la question de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Il est vrai que nous avons tous la connaissance, comme vous le dites, mais cette connaissance rend l'homme prétentieux, tandis que l'amour renforce la communauté. Celui qui s'imagine connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il devrait connaître. Mais celui qui aime Dieu est connu par lui. La question est donc la suivante. Peut-on manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles? Nous savons bien qu'une idole ne représente rien de réel dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'il y a de prétendus dieux au ciel et sur terre, et en fait il y en a beaucoup de dieux et de seigneurs, il n'en est pas moins vrai que pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui a créé toutes choses et pour qui nous vivons. Il n'y a également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses existent et par qui nous vivons. Mais tous ne connaissent pas cette vérité. Certains ont été tellement habitués aux idoles que maintenant encore, ils mangent la viande des sacrifices comme si elle appartenait à une idole. Leur conscience est faible et ils se sentent souillés par cette viande. Ce n'est pourtant pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Nous ne perdrons rien si nous n'en mangeons pas et nous ne gagnerons rien non plus si nous en mangeons. Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. En effet, si quelqu'un de faible te voit, toi qui as la connaissance, en train de manger dans le temple d'une idole, ne se sentira-t-il pas encouragé par sa conscience à manger de la viande offerte aux idoles? Et ainsi, ce faible, ce frère pour qui le Christ est mort, va se perdre à cause de ta connaissance. En péchant de cette façon contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si un aliment entraîne mon frère dans l'erreur, je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne pas égarer mon frère. Psaume 33, versets 1 à 11. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles, homme droit. Le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle, et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Proverbe 21, versets 8, 9 et 10. Les criminels suivent des voies tortueuses, mais les gens honnêtes ont une conduite droite. Mieux vaut vivre au coin d'un toit que partager sa maison avec une femme querelleuse. De tout son être, l'homme malveillant désire faire du mal et il n'épargne même pas son ami.
Merci Sabelle, merci beaucoup pour ta lecture. Et lorsqu'il a été confronté à des plans de plus en plus sournois visant à saper le processus d'achèvement du mur, Néhémie est resté concentré et engagé dans sa tâche. En ne cédant pas aux menaces de ses ennemis, Néhémie a démontré la solidité de sa foi en Dieu. Souvenez-vous d'une situation où d'autres ont essayé de vous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Dites-moi, qu'a révélé votre réaction sur la force de votre foi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai là de nouveau demain, comme d'habitude, comme chaque jour. J'espère que je vous y trouverai également sur la Daily Audio Bible. À demain.